Vous êtes toujours sur Radio Zone 93.8, Remue Ménage, et nous discutons avec Corinne Vacker, qui est une ethnologue qui a passé 3 ans de sa vie au Kenya avec des groupes d'entraide de femmes et qui vient tout juste de rentrer et nous fait part de son expérience. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous téléphoner au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis la Suisse voisine, 00 33 depuis la Suisse romande. Corinne Vacker, là maintenant vous nous avez parlé de ce problème très spécifique de la terre et comment beaucoup de femmes kenyanes se retrouvent en fait seules sur la terre à la gérer parce que c'est aussi leur envie d'être paysanne, d'être fermière. Elles sont attachées à cette terre mais souvent elles doivent faire d'autres choses parce qu'elles n'ont soit pas la possibilité d'avoir leur terre à elles, soit c'est trop petit, elles nourrissent pas tout le monde. Donc elles cherchent à avoir d'autres ressources, d'autres moyens de survie. Et d'ailleurs le gouvernement les encourage beaucoup à faire ça. On aimerait qu'elles soient capables de développer leur propre autonomie financière et que cela contribue à développer toute une production à l'intérieur du pays. Alors dans ce sens-là, quels sont les projets auxquels vous avez pu participer ou que le groupe de coopération avec qui vous travaillez a soutenu et qui était un des désirs des femmes dont nous avons parlé tout à l'heure?
Les groupes d'entraide sont engagés dans des projets bien différents. Il y a toute une multitude de projets qu'ils essayent à réaliser justement pour avoir, comme vous disiez, une autonomie financière aussi non agricole, souvent quand leurs terres sont trop petites pour nourrir tout le monde. Alors en effet, parfois elles ont des poules ou bien elles essayent d'avoir des poissons et de vendre du poisson ou bien elles s'engagent dans la production vivière, elles font des légumes, elles font... parfois aussi du blé qu'elles vendent. Elles ont en fait une multitude de plus de 50 projets. Alors, question, est-ce que ces projets peuvent s'agrandir? Est-ce qu'ils sont économiquement vraiment viables? Est-ce qu'elles rapportent des bénéfices? C'est une question qu'on se pose. Et en effet, comme vous avez dit, le gouvernement se le pose aussi parce qu'il aimerait bien développer aussi les régions rurales et aimerait bien que les femmes y participent aussi. Souvent... pas toujours, mais souvent, et bien souvent, il y a aussi des déceptions liées au projet de income generating, comme on les appelle, que les groupes d'entraide font.
Augmentation du revenu, si on traduit, oui.
Oui, augmentation du revenu que les femmes font. Parce que je vais vous donner un exemple. Alors, il y a l'Ikikuku Women Group, c'est un des groupes dans un des slums à la banlieue de Nanyuki, où j'étais, qui existe aussi depuis d'ailleurs plus de 20 ans. Et entre autres, une fois dans les années 70, c'était la décade des femmes. Les femmes ont été soutenues dans leur groupe d'entraide de façon multiple. Alors entre autres, ce groupe a été soutenu pour avoir des poules et pour vendre des œufs et vendre des poulets. On leur a apporté des poules hybrid. Et puis il y avait dans les débuts des années 80, il y avait le problème d'un manque de nourriture pour la population. Alors l'aide alimentaire a aidé aussi à nourrir les poulets de ce groupe d'entraide. Ça a bien marché. Après, les poules hybrides devenaient malades, elles sont mortes. Elles ont acheté des poules locales, elles ont vendu les œufs. Oui, il y a des bénéfices très petits, souvent liés au projet justement typique que ces groupes d'entraide font. Or, quelle chance pour ce projet. Ça marchait bien, ils pouvaient vendre des œufs, ça commençait à prendre le marché. Or, après moins de 2 ans, ils ont arrêté d'acheter de nouvelles poules, ils ont arrêté d'investir leurs bénéfices, leurs profits qu'ils avaient réalisés en agrandissant leur projet. On s'est demandé, je me suis demandé la question, pourquoi ils avaient arrêté? C'était quand même un projet bien, c'était local, ils pouvaient y aller.
Voilà l'exemple typique de questions que vous vous posez en tant que chercheuse quand vous êtes sur place. Vous avez participé à un projet, puis tout à coup ça s'arrête. Alors, c'est votre tâche de savoir pourquoi ça s'arrête. C'est ce qu'on vous demande, par exemple, dans le groupe pour lequel vous travaillez.
Oui, c'est une des questions que surtout la coopération au développement se pose quand elle aimerait assister les groupes à avoir quand même à avoir un bénéfice aussi financier des projets qu'ils font. Parfois, il y a des problèmes techniques quand ils n'arrivent pas à contrôler justement ces hybrides, ou bien des poules, ou bien des cochons, ou bien n'importe, ou bien c'est un problème de marché, ou bien comme on a parlé tout à l'heure avec le tricot, ils n'arrivent pas à vendre le tricotage. Parfois, c'est un problème technique, hein, de savoir technique, de contrôle technique. Parfois, c'est un problème de contrôle de marché, mais parfois, il y a encore d'autres problèmes. Alors, cet exemple, justement, de groupe qui avait des poules, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient arrêté avec ces poules. Pourtant, les œufs, ça se vend bien. Alors, c'est là qu'ils m'ont expliqué, écoute, les prix pour l'école ont augmenté. Nous devons voir que nos enfants entrent, au moins un enfant entre en école secondaire. Puis alors, nous avons décidé de vendre toutes les poules pour supporter nos enfants. Et c'est typique. C'est typique. Quand une fois, ils arrivent à réaliser un petit bénéfice, il y a souvent, et très souvent même, des problèmes qui se posent, ou bien quelqu'un tombe malade, ou bien il y a des dépenses à faire pour justement l'école, ou bien pour améliorer l'infrastructure de la région, alors le groupe doit réagir à ces crises ou à ces besoins, doit dépenser l'argent qu'il a pu accumuler, et le projet s'arrête, ou bien il continue un peu plus tard, ou bien il s'arrête complètement, selon le cas. Je n'ai pas pu constater un développement continuel des projets économiques que les groupes ont fait. Si un groupe est très calé, et il arrive, nous avions un cas aussi, il y avait un groupe de danse. Ils étaient calés en danse, vraiment le meilleur groupe de danse. Alors, parce qu'ils étaient très bons, tout de suite, un grand homme local les a engagés, fini le groupe d'entraide, ils sont tous devenus salariés. Un autre groupe qui avait un bistrot qui marchait très bien, la même chose, un groupe de femmes naturellement aussi, parce que la grande majorité des groupes d'entraide sont des groupes de femmes. Alors là aussi, quand ça marchait bien, le bistrot, hop, il y a un patron local qui a géré le tout, ce n'était plus un groupe d'entraide. Mais c'est la minorité des cas. Dans la majorité des cas, des groupes justement qui essayent de faire une réalisation économique, ce sont des problèmes de crise dans la famille ou de besoin d'argent immédiat qui leur font dépenser. Alors, ceci dit, quand on veut coopérer pour assister ces groupes à avoir des projets économiques, il faut prendre en considération ainsi la fonction qu'ils ont pour faire de l'argent pour les membres, pour créer de l'argent pour les membres, ainsi que les autres activités, les autres responsabilités qu'ils ont dans un pays où dans une région où beaucoup de crises peuvent arriver et il n'y a personne qui aide quand il y a les crises. C'est-à-dire, il y a le groupe justement qui doit assister comme une sorte d'assurance informelle les membres. C'est une fonction très importante.
Et la déception dont vous parliez tout à l'heure, alors c'est les groupes de coopération qui comprennent mal ces dérivations parce qu'eux se soucient peu de suivre le vécu et entre autres de comprendre les raisons de ces crises par exemple.
C'est une question d'avoir assez d'informations et de bien comprendre et de bien pouvoir comprendre les besoins des femmes membres de ces groupes. Ceci est vrai pour le gouvernement ainsi que pour la coopération. Il faut avoir l'oreille prête des femmes et avoir leur confiance pour qu'ils nous racontent pourquoi quelque chose ne se fait pas. Ce sont des femmes dans une grande majorité, elles sont analphabètes. Et puis quand il y a une structure autoritaire de questionnage trop forcée, elles ne disent rien. Elles ne répondent rien ou bien elles répondent n'importe quoi.
Donc en fait, pour vous d'être resté 3 ans, c'était une condition indispensable justement pour essayer d'approcher, d'entrer en confiance avec ces femmes et que vous puissiez être un lien entre elles et les groupes de coopération efficaces de ce point de vue-là.
Oui, la durée est très très importante pour avoir justement la confiance. Puis aussi, ce qui a peut-être joué un rôle, c'est que j'étais membre d'un groupe moi-même aussi, d'un groupe de femmes qui travaillaient. Elles étaient un peu semblables comme moi, mais elles avaient des enfants, moi je n'en ai pas. Mais en tout cas, on était semblables parce qu'elles allaient aussi faire leur métier. Et puis elles formaient un groupe d'entraide. Et les gens savaient que j'étais membre et que j'aimais bien les groupes d'entraide. Alors ça a aussi aidé à créer de la confiance.
Vous étiez vous-même d'un groupe d'entraide. Alors, quel projet vous avez eu dans votre groupe d'entraide? Vous avez eu une fois un but à viser auquel vous avez-vous participé?
Oui. Et alors, j'étais membre d'un groupe qui s'appelait Soufouria Women Group. Et Soufouria, ça veut dire casserole, grande marmite pour cuisiner. Et c'était un groupe justement formé de femmes qui avaient leur petit magasin, ou bien qui travaillaient dans la banque, ou bien qui étaient des infirmières ou des institutrices, c'est-à-dire middle class femmes qui font aussi des groupes d'entraide. Alors en effet, ce qu'on faisait, c'est qu'on se rencontrait une fois par mois pour collectionner les sous, l'argent, pour s'acheter des grandes marmites à 1 mètre de diamètre, à peu près des énormes marmites, qui nous permettraient de faire des grandes parties, des grandes fêtes, et pour assister d'autres qui font des fêtes.
Le groupe marmite alors.
C'était le groupe marmite, oui.
Mais c'est vraiment que ça veut dire que toutes les femmes ici réunies, leur unique préoccupation, c'était d'organiser des parties?
Non, c'était d'ailleurs grâce à ce groupe que j'ai réalisé un autre élément très important pour ces groupes d'entraide. C'est une chose, c'est celle qu'on dit qu'on fait, pourquoi on se réunit, et l'autre, c'est tout ce qui se passe à côté. Alors c'était absolument nécessaire aussi pour moi-même d'avoir toutes ces relations qui s'étaient forgées autour des membres de ce groupe. On connaissait les ouvriers, quand on avait besoin de quelque chose, on savait où acheter à bon prix, on faisait des voyages ensemble, on s'entraidait, parfois j'avais une voiture, j'aidais une, et l'autre aide l'autre, etc. On se connaissait, tout un networking qui est surtout pour les femmes qui font le commerce absolument important. Et alors, d'autre part, oui, on collectionnait l'argent pour acheter des marmites, mais il fallait presque 3 ans pour qu'on ait enfin l'argent pour s'acheter cette marmite.
Et le jour où vous avez eu enfin la marmite, alors ça a été la première grande partie que vous avez organisée?
Alors oui, c'était une grande partie. Ça donne aussi du prestige quand on a réussi à réaliser son but. Et typique pour le Kenya, c'est que des groupes d'entraide font des harambées quand ils ont réalisé leur but. Harambée, ça veut dire « let's pull together ». C'était le bon mot du premier président kenyan qui avait dit que si les gens s'organisaient, les femmes s'organisaient en groupe d'entraide, que le gouvernement allait assister les femmes. Alors, dans notre cas, ça avait la forme un peu qui m'a fait un peu rire. Alors, nous avions acheté toutes ces marmites pour chaque membre. Nous sommes un groupe de 35 membres qui ont acheté ces marmites. Alors, nous avons fait la fête, on a dansé, il y a des groupes qui sont venus chanter, il y a des politiciens qui ont parlé, ils ont parlé beaucoup du développement local, du parti, etc. Et puis après, chaque marmite passe dans la main d'un représentant du gouvernement ou d'une représentante du gouvernement qui donne marmite par marmite dans la main de chaque membre du groupe d'entraide en disant « Le gouvernement est avec vous, le gouvernement vous incite ». Alors, je dois vous dire, c'était pas habituel qu'il y ait une femme blanche dans un groupe d'entraide. Alors, j'étais un peu gênée, mais j'étais avec elle et puis c'était assez normal de recevoir cette marmite. Ceci m'a ouvert les yeux pour un phénomène important pour les groupes, me semble-t-il. C'est que justement, quand un groupe d'entraide décide d'être officiellement un groupe, c'est-à-dire qu'il décide parfois à coopérer avec autrui. Ceci peut être le gouvernement ou une autre coopération au développement. Et c'est alors une interaction qui joue des organisations ou justement du gouvernement avec ces groupes d'entraide. Et alors, dans notre cas, voilà, c'était, on a reçu de nouveau les marmites qu'on venait de s'acheter nous-mêmes avant.
Et oui, parce que c'est ça qui m'a choquée quand vous avez raconté, c'est qu'apparemment, les gens qui assistaient seulement à la fête ont cru que c'était le gouvernement qui vous donnait les casseroles, alors qu'en fait, c'est vous qui les aviez achetées.
Oui, oui, oui.
Et ça, les femmes réagissent comment quand ça se passe comme ça?
Ils laissent faire parce que ce qu'on voit dans ces fêtes, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est toutes les relations qu'on arrive à s'établir entre des personnages, des politiciens surtout, mais aussi des businessmen locaux qui peuvent être très importants quand on a d'autres projets à réaliser. Et au fait, on leur donne le prestige. Mais d'autre part, ce sont eux qui vont aider le groupe quand le groupe a besoin de solver un autre problème.
Il est un projet qui a été, je ne sais pas d'où il est parti, vous m'en avez parlé, c'est celui des réservoirs d'eau. Apparemment, c'est un de ceux qui ont été le plus rempli de succès et qui a été, entre autres, très fortement soutenu par le groupe de coopération avec lequel vous travaillez. C'était aussi une proposition qui était venue des groupes d'entraide de femmes?
Non, alors là, c'était un des projets de la coopération suisse au développement, d'assister des groupes d'entraide en leur apprenant à construire des tanks à eau avec en ciment avec ce qui leur permettrait justement de collectionner les pluies qui s'accumulent sur les toiles en tôle ondulée et pour ne pas devoir aller pendant toute l'année 2, 3, 4 kilomètres pour chercher l'eau. D'ailleurs, ces randonnées pour chercher l'eau sont souvent dangereuses. C'est un moins peu populé. Souvent, les régions, il y a les éléphants, il y a les buffles. Il y a souvent des accidents qui se passent en cherchant l'eau. Et c'est un besoin fondamental d'avoir de l'eau potable propre dans les maisons. C'était un de projets avec, comme vous avez dit, beaucoup de succès. C'était d'apprendre des groupes, ces groupes d'entraide, comment construire ces water tanks, ces tanks pour collectionner l'eau. Ça s'est passé de la façon suivante. Il y a les membres d'un groupe ont appris à construire les tanks d'eau à 6 pièces, ont appris à comment à les faire. Et c'est après que les membres ont appris les autres membres ou d'autres, oui, à réaliser les autres tanks, parce qu'il faut quand même 2-3 semaines pour terminer tout ça. Et c'est cher. C'est un engagement, c'est un risque qui est... Ça a coûté vers les 3000 shillings, ça fait 300 francs suisses quand même pour un tank, c'est beaucoup. Pour elle, c'est beaucoup.
Pour elle, oui, j'imagine. Nous, on vient avec jongler avec les milliers de francs, plus rien n'importe, il n'y a plus de valeur.
En effet, alors elles apprenaient cette nouvelle technique. Et puis là, une des contributions était aussi de chercher à trouver des chemins. Comment est-ce qu'un groupe qui savait déjà construire ces water tanks pouvait apprendre d'autres groupes à faire les refaire? Alors comment est-ce que celles qui ont appris une nouvelle technique pourraient devenir comme des institutrices pour d'autres groupes pour qu'ils puissent aussi réaliser? Et c'est un petit projet quand on parle du poids financier qu'il a pour la coopération, mais pour la réalisation, en effet, ça a apporté beaucoup de une bonne réputation à notre programme. Les femmes ont trouvé que c'était une bonne chose, ces projets. Or, là aussi, ça ne va pas simple, parce que parfois les groupes commencent à construire des tanks à eau et puis elles s'arrêtent soudainement. On se demande pourquoi elles arrêtent maintenant de construire. On les a assistées avec de l'argent, avec l'aide technique pour les 6 premières water tanks. Mais après, ils ont continué, ça a bien marché. On va voir de temps à autre si techniquement ça marche bien. C'est-à-dire les gens de notre programme, des techniciens, pas moi-même, ou pas moi-même parfois, mais marginalement, pas au niveau technique, c'est-à-dire pas au niveau technique. Bon, et après, alors, elle s'arrête à construire ces water tanks et on se demande pourquoi. Et c'est en connaissant leur responsabilité pour l'agriculture ou pour les travaux qui se posent différemment selon les saisons. Parfois, il y a plus à faire, parfois, il y a moins à faire ou d'autres problèmes qui se posent. On peut comprendre pourquoi, une fois, elles s'arrêtent et puis elles reprennent, elles s'élancent de nouveau à ce projet ou bien s'il y a d'autres problèmes qui se posent. Mais en effet, c'était une technique assez adaptée et ça a très bien réussi, ce projet.
Okay.
Corinne, ce qui me frappe quand même, c'est que ces femmes ont une énergie incroyable. Elles prennent en charge leur famille, elles cultivent, elles s'organisent pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, pour s'acheter des terres, pour avoir d'autres sources de revenus. Ça me semble une énergie folle qu'on trouve rarement, même dans nos pays dits développés. Est-ce qu'on peut dire que cette façon de fonctionner, c'est une obligation qui est imposée à la femme kényane? Ou est-ce que c'est dû les circonstances historiques, politiques actuelles, économiques, etc. Ou est-ce que c'est une volonté d'elle d'assumer, d'être indépendante?
C'est les deux, ce sont les deux. Naturellement, il y a eu les contraintes, surtout au temps colonial, plus de travail qui était sur les épaules des femmes, surtout quand les maris étaient loin, engagés comme pour leur travail, pour autres, travail salarié pour autres, en effet. Et le développement moderne a apporté plus de stress sur les épaules des femmes, plus de domaines qui étaient jadis répartis différemment entre les deux sexes sont maintenant un devoir des femmes. D'ailleurs, une des représentantes de l'Organisation des femmes du Kenya a dit l'autre jour à une conférence, elle a dit le problème du développement au Kenya, ce n'est pas comment développer les hommes, mais les femmes, mais enfin, c'est de se demander la question comment on pourrait développer les hommes, c'est-à-dire que pourraient faire les hommes pour le développement. Il y a cette tendance qui est de plus en plus de travail qui repose sur les épaules des femmes. Les hommes sont parfois engagés dans un travail salaire, parfois pas. Ceci est un des problèmes du développement du pays, surtout quand ils ont peu de formation scolaire, en effet. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a dans plusieurs pays, dans la région du Sub-Sahara, des traditions parmi les Bantous, par exemple le groupe ethnique des Kikuyu aussi, une tradition qui veut que les femmes sont responsables. Ce sont elles qui font l'agriculteur. Elles ont toujours eu leur indépendance économique, traditionnellement aussi. Il y avait des domaines sous le contrôle de l'homme, sous la responsabilité de l'homme, et d'autres domaines, même la vente du surplus qui se posait, qui était le domaine des femmes. Alors maintenant, et d'ailleurs c'est une elles disent aussi dans leur groupe d'entraide que les groupes d'entraide, non, c'est basé sur la tradition. Il s'agit aussi de garder les possibilités qu'elles avaient dues à leur tradition, qui deviennent un peu de moins en moins importantes quand le développement s'avance dans cette région.
Donc elles sont un peu confrontées. Est-ce que c'est une de leurs préoccupations de se dire, est-ce que ça vaut la peine qu'on prenne notre place comme femme moderne dans un Kenya moderne où on deviendrait directrice d'un bistrot, d'un magasin, de quitter le rôle traditionnel sur la terre par rapport à, ou bien est-ce que c'est mieux qu'on reste à notre place où on a déjà notre marge de manœuvre et de s'en contenter?
Oui, souvent il me semblait que c'était la deuxième des choses que vous dites. Ça m'a frappé souvent de réaliser des femmes fortes, fières, engagées dans leur travail, voix forte, décidées de ce qu'elles font, dans des domaines qui sont liés à leur autorité traditionnelle. Alors, elles chantent, elles dansent pour le gouvernement, ou pour la coopération, ou bien pour n'importe qui veut écouter, pour des politiciens aussi, par exemple. Elles font leur travail, mais elles ne s'engagent pas d'une façon moderne, comme nous le ferions. Elles ne se professionnalisent pas. Quand, par exemple, vous avez mentionné l'exemple de devenir une businesswoman, d'avoir un magasin, de devenir, de professionnaliser sur ce domaine-là. Alors, j'ai réalisé que parfois, elles commençaient des grands projets pour avoir un magasin, par exemple. Or, elles ne voulaient pas gérer un magasin. Elles voulaient rester fermières, mais comme elles avaient besoin d'argent, parce que tout devenait cher au temps moderne, les terres trop petites, etc., alors elles voulaient encore quelque chose en plus. Fermières et quelque chose en plus, parce qu'il faut de l'argent pour ceci, pour cela. Or, ce n'était pas un but de devenir femme moderne, comme dans notre sens du terme, laisser leur autorité et leur rôle traditionnel pour devenir tout à fait différente.
Mais est-ce que, alors, si nous qui avions été pendant des millénaires et qui, pour beaucoup d'entre nous, c'est encore le cas, enfin, pas d'entre nous, mais beaucoup de femmes, ont été cantonnées aux tâches ménagères, à la garde des enfants, etc., qui, alors donc, n'avons rêvé que de faire un travail où on s'épanouirait, de sortir de la maison, prendre son indépendance, est-ce qu'elles, qui traditionnellement travaillent beaucoup, s'occupent de tout, est-ce qu'elles ne rêvent pas de ne rien faire?
Sûrement, de rien faire, sûrement. Alors, sûrement, et en effet...
Ça leur émancipation, ne rien faire.
Oui, en effet, mais c'était un rêve qui est assez égalitaire. J'aimerais volontiers dire que la société Kikuyu, le groupe ethnique Kikuyu était une société égalitaire, non étatique avant le temps colonial. Chacun avait la même chance de faire une carrière. Les hommes comme les femmes, des carrières différentes, mais les femmes aussi. Alors, pour chaque femme, quand enfin les enfants seront plus grands et les enfants sont initiés, les femmes ont une possibilité d'avoir plus de temps libre et aussi de faire une carrière politique. Parfois, elles m'ont demandé, vous, les femmes en Europe, qu'est-ce que vous faites quand une fois vous êtes plus âgées? Quand vous êtes jeune, pour nous, vous avez l'air un peu... Ils ont parfois dit, pas moi, mais parfois aussi, ils ont dit... Souvent, les femmes sont comme des poupées, elles sont jolies... Elles sont jolies, elles ne travaillent pas avec leurs mains, peut-être elles conduisent une voiture, mais qu'est-ce qu'elles font toute la journée? Elles sont justement seulement dans leur maison. Et puis elles suivent leurs hommes partout. Et elles ont demandé qu'est-ce qu'elles font quand les femmes sont âgées. Et en effet, dans ces groupes d'entraide, la majorité des femmes est entre 30, 50, 60 ans. Ce sont des femmes qui ont pu lâcher quelques travaux sur les épaules de leurs belles-filles. Alors, quand les filles se marient, elles prennent un peu de responsabilité dans leur ménage. Parfois, ça réussit si elles restent. Et alors, c'est une carrière, justement, comme vous dites, de temps libre. On essaye d'avoir plus de temps libre parce qu'elles travaillent énormément. Ça fait vers les 10 heures par jour qu'elles travaillent. C'est beaucoup de travail. Et dans une région où l'infrastructure manque et justement où la terre est difficile à cultiver, mais elles en sont fières. Il y a les deux côtés. La fierté de celles qui travaillent beaucoup mais qui savent ce qu'elles ont fait.
Quand vous parlez comme ça un petit peu de vos vies à chacune, vous ne parlez pas seulement du fait que les femmes blanches ont l'air de poupées et ne font rien et qu'elles travaillent dur. J'imagine que vous avez aussi pu aborder, parce que vous étiez proche d'elles à force de vivre tous les jours à côté d'elles, des questions peut-être plus intimes que le travail et les charges lourdes qui pèsent sur leurs épaules. Mais par exemple, leur rapport avec les hommes, et d'autres choses qui sont effectivement de cette intimité qu'on ne peut échanger que si on vit tous les jours. Est-ce que vous avez eu cette occasion-là?
Oui, à multiples occasions, en effet. Oui, un des thèmes des groupes d'entraide, c'est naturellement la relation avec les hommes aussi, ça joue un grand rôle. Comment se comporter envers des hommes qui viennent parfois, qui partent de nouveau, qui ne sont pas là, qui veulent que les femmes leur font la cuisine tous les jours, justement quand ils viennent. Un des problèmes, c'est que les jeunes hommes, quand ils ne trouvent pas de travail, salariés, les jeunes hommes, ils ne se marient pas, mais ils ont des copines partout. Alors ils se font nourrir, loger par des copines, par-ci, par-là, et ils bougent d'une femme à l'autre, et les femmes le savent. Il y a aussi la tradition polygame, qui joue un rôle, elles ont l'habitude, alors elles en parlent. Et parfois elles disent aussi, il faut discuter un homme, il faut être plusieurs femmes pour discuter comment gérer cet homme, disons. Parfois il y a aussi des problèmes qui se posent. Puis un autre thème qui est survenu dans des conversations, c'était la circoncision.
Alors, l'excision, je crois. Hein.
Pardon, l'excision des femmes, oui. Alors, au temps traditionnel, dans la société traditionnelle, c'était un rite d'initiation pour les hommes ainsi que pour les femmes. Et surtout des vieilles femmes ont dit, à plusieurs reprises, m'ont dit, écoute, tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus cette initiation, il y a toute la tradition qui n'existe plus.
Parce que donc, ça a été supprimé au moment de l'indépendance, l'excision?
Avant l'indépendance, c'était des missionnaires européens qui ont supprimé. cette initiation, en effet. Et c'était un des thèmes aussi dans la lutte anticoloniale. Est-ce qu'il fallait reprendre ou pas? Alors, elles ont dit, parfois, parce qu'il n'y a plus cette initiation, les hommes ne payent plus de dot, ne marient plus les femmes, et ainsi toute la responsabilité reste chez elles. C'était intéressant, des thèmes qui sont assez controverses aussi parmi les femmes. Alors, les groupes d'entraide étaient un endroit aussi pour discuter mille et une questions liées aux hommes, à la tradition, à la modernité.
Est-ce qu'elle se confronte aussi à des problèmes de la contraception, du choix? Est-ce qu'elle, par exemple, bon, elle vit ce rapport avec les hommes qui eux se baladent, est-ce qu'elle peut se permettre ce genre de situation, elle, comme femme?
Le Kenya a la croissance de la population la plus haute du monde, c'est 3,9%, presque 4%. Et ça se voit, les femmes ont beaucoup d'enfants, elles en ont par moyenne 7 enfants, ou 7 enfants vivants, parfois plus 9, 10 enfants qu'elles ont eu. Oui, c'est un des thèmes, quand c'est déjà le 6e, 7e qui vient, et il n'y a pas eu de. On n'a pas assez pour nourrir et pour bien scolariser les autres, et de nouveau un enfant qui vient, ça les épuise, c'est un des thèmes. La contraception, ça existe. Dans les centres d'hôpitaux qu'il y a, on peut recevoir des condoms sans payer. C'est surtout les condoms qu'on donne ou bien des injections. On fait aussi pour prévention de natalité. Mais elles disent, pour nous convaincre, c'est une chose, mais alors il faut aussi convaincre les hommes. Mais ah non, un vrai homme kényan, il ne va jamais utiliser ça. Justement, le condom, il ne va jamais l'utiliser. Et en effet, il est difficile. Une femme a une fois expliqué ça de la façon suivante. Elle a dit, regarde, j'ai déjà 6 enfants, je le sais que c'est trop, j'ai l'air vieille, j'ai 40 ans, mais j'ai l'air vieille, je le sais, je suis toute maigre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis tellement contente que quand une fois mon mari rentre déjà de la ville, qu'il vienne me voir, alors je ne vais pas dire non, parce qu'il va me rapporter un cadeau de la ville, il va m'aider quelque chose ici à la maison, à ma ferme, alors c'est clair que je vais le gâter.
En vous présentant tout à l'heure, Corinne Vaquin, j'ai dit que votre préoccupation était de discuter des projets de développement en essayant de voir comment on pouvait respecter au maximum les projets formulés par les gens, en l'occurrence ici les groupes d'entraide de femmes au Kenya, tout en proposant autre chose. C'est à ce titre-là que vous avez été engagée pour faire cette recherche au Kenya. Bon, est-ce que c'est des rencontres d'intérêt qui se font facilement. Est-ce que il est facile, est-ce que ça se fait facilement par les groupes de coopération qu'on connaît en Suisse, puisque nous parlons de la Suisse, que ce soit les organisations non gouvernementales ou la coopération suisse, de coopérer effectivement en respectant l'autonomie, le pouvoir de décision des gens sur place, et entre autres, par exemple, en respectant ce que des femmes veulent, parce que ça doit pas être... C'est sûrement... une particularité qui a beaucoup d'importance, c'est que tout à coup, des chercheurs, des spécialistes, des techniciens souvent devraient accepter les propositions, les conditions fixées par des femmes.
Alors, il y a plusieurs thèmes à la fois ici qui sont en effet liés les uns à l'autre. Rencontre facile, rencontre difficile, selon les possibilités de communication qu'on a. Et il me semble que un des devoirs primordiaux qui s'est posé, c'est justement de faciliter cette communication, c'est-à-dire de savoir que font ces groupes, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Souvent, il y a des notions qui ne sont pas adaptées aux possibilités. J'aimerais bien vous donner 2 petits exemples. Une des notions, nous avions le programme de coopération, voulait soutenir les petits fermiers qui avaient plus de 5 hectares de terre. Alors, c'est grâce à la recherche et grâce aux connaissances de ces groupes d'entraide de fermières qu'on a pu découvrir que, en effet, il y avait beaucoup de fermières qui n'avaient beaucoup moins que 5 hectares de terre, qui étaient seulement partiellement fermières, mais l'importance d'autres possibilités de revenus à côté de l'agriculture qui était très importante, ou bien la même chose avec les pastoralistes aussi, qui n'avaient plus de vaches parce qu'il y avait la sécheresse dans les années 80, et quand même on aimerait acheter de nouveau des vaches, mais alors il faut d'autres possibilités. Parfois, il faut aussi trouver un moyen de communication, de traduction, comme au deuxième exemple que j'aimerais volontiers donner, c'est pour coopérer avec des groupes d'entraide, en effet, il faut savoir est-ce que vraiment ils vont dépenser l'argent comme ils ont dit de le faire, ou est-ce qu'ils vont faire quelque chose de complètement différemment. Alors, si on se souvient des exemples d'avant, parfois ils ont des poules et puis tout à coup elles font quelque chose d'autre avec l'argent. C'est une question de confiance, de savoir est-ce que cet argent a été usé de la bonne façon, comme prévu ou non. Il faut connaître les groupes, parler, oui. Et d'autre part, question argent, quand il y a une grande majorité des femmes qui sont analphabètes, on ne peut pas attendre d'elles qu'elles fassent une comptabilité élaborée sur les dépenses et les revenus. Non, mais en les connaissant, on pouvait dire qu'en effet, si ce groupe a tel et tel critère, c'est-à-dire ils ont déjà réalisé des projets, ils connaissent bien leur leader, ils contrôlent le leader de ce groupe, et jusqu'à présent ça a bien marché, c'est aussi un signe de garantie. Alors derrière l'idée de faire une bonne comptabilité, c'est l'idée de recevoir une garantie. Or, on peut trouver la garantie avec un autre instrument. Alors, communication, pour moi, communication entre cultures, signifie souvent de traduire des notions, des idées d'un représentant d'un groupe culturel, si je veux dire, c'est-à-dire les Suisses, d'une part, et d'autre part, ces groupes d'entraide, de voir à quel point est-ce qu'une coopération est possible. Comment est-ce qu'ils peuvent se comprendre sur quelques notions et coopérer là-dessus. Et ce n'est jamais harmonieux à 100%, mais il faut trouver les endroits où on peut coopérer ensemble et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut coopérer.
Donc dans ce sens-là, c'était votre rôle d'être l'intermédiaire entre les groupes d'entraide de femmes et l'équipe de techniciens de coopérants suisses avec lesquels vous travaillez. Est-ce que cette position d'intermédiaire était parfois pas un peu inconfortable comme ça, dans le sens qu'il y avait ce que vous demandez, ce que vous suggérez les femmes, puis il y avait ce qu'on vous disait de l'autre côté ou ce qu'on aurait eu envie de faire de l'autre côté?
En effet, il y avait souvent des tensions, souvent des contradictions que j'entendais d'un côté et de l'autre côté. Mais ce n'était pas seulement deux parties, il y en avait beaucoup plus. Il faut penser aussi au gouvernement, aux différents ministères du gouvernement qui aimeraient tous avoir le prestige de coopérer avec des groupes d'entraide, mais qui n'ont souvent pas les mêmes idées, l'un ministère avec l'autre. Puis les techniciens, un technicien n'a pas la même idée que l'autre technicien. Et puis il y avait un autre thème aussi qui m'a préoccupé pendant ces 3 années au Kenya, c'est nous sommes un team de recherche écologique pour la coopération au développement. Or, l'écologie ne peut pas, ne devrait pas et ne peut, c'est un thème à discuter, mais elle ne peut pas avoir un sens comme une dictature de ce qu'il faudrait faire et les groupes feraient ce qui est bon à faire. Il faudrait trouver un moyen, comment persuader les gens ou bien comment soutenir les projets des groupes d'entraide qui pourraient aussi entrer dans nos critères écologiques qui sont très sensible dans une région justement le Sahel du Sud, semi-aride, etc., où il faut vraiment faire attention aux problèmes écologiques. Alors là aussi, si vous dites inconfortable, je ne sais pas inconfortable, mais en tout cas, des opinions diverses, des possibilités de s'exprimer diverses, parce qu'il y a toujours des relations de pouvoir qui jouent un rôle, et être intermédiaire, ça veut aussi dire parfois ne rien dire et attendre pour qu'on ait la possibilité de le dire là où ça aura l'effet qui est dans le contenu.
Et vous, en tant que femme sur place, est-ce que l'importance que vous donniez au travail des femmes, à ces groupes d'entraide, a toujours été bien compris par les gens avec qui vous travaillez. Vous aviez été engagé pour ça. Hein? On savait que vous étiez intéressé au travail, aux entreprises que font les femmes sur place. Donc, tout le monde savait que vous veniez pour ça. Et est-ce que ça a toujours été bien compris et bien... c'était aussi un travail harmonieux.
Oui, on m'a fait venir pour ces problèmes qui se posaient avec la coopération avec des groupes d'entraide de femmes. J'étais la seule femme dans notre team, quand même important. C'était un grand team. Ceci voulait dire que souvent on entendait tout ce qui ne marchait pas. Souvent on entendait les plaintes. Ça a un peu à faire avec le rôle que les femmes ont ici en Suisse. Elles écoutent beaucoup de problèmes qui se posent parce que les femmes kényanes n'étaient pas comme elles devraient être ou comme on aimerait bien qu'elles seraient. Et les groupes d'entraide ne sont pas comment ils devraient être. Alors parfois c'était un peu violent aussi, oui. Et puis il y avait un deuxième phénomène qui me préoccupe beaucoup. Aussi ici en Suisse, c'est que tant que les projets de la coopération développement ou les programmes sont faits de façon suivante, qu'il y a un expert ou plusieurs experts avec leurs femmes qui restent chez elles, qui leur font la cuisine, qui font de la jolie musique suisse, qui s'occupent de leur mari, mais qui ne sont pas engagés dans les projets de la coopération, alors le chemin de rencontre, la communication, de comprendre ces groupes d'entraide de femmes, parce qu'au Kenya, chez les Kikuyu, surtout chez les Kikuyu pauvres, comme dans notre région, ce sont les femmes qui sont les fermiers. Alors pour comprendre comment est-ce que ces fermiers gèrent leurs entreprises et quelles sont leurs possibilités de développement qu'on pourrait soutenir, j'ai souvent pensé que si les experts étaient des femmes... ou s'il y avait plus de femmes dans notre projet, le pas de l'adaptation culturelle envers les groupes d'entraide de femmes aurait pu être plus facile ou plus court. Un des problèmes me semble aussi que les experts ne restent pas longtemps sur le terrain. Alors dès qu'après 2 ou 3 années, ces femmes, elles ne sont pas comme des femmes suisses, elles sont différentes. Mais les hommes sont différents aussi, les enfants sont différents aussi. Mais il faut du temps pour connaître la situation culturelle, sociale, politique de l'alentour. Alors quand enfin les gens ont compris, enfin on a pu apprendre, hop, ils repartent, il y a de nouveaux experts qui arrivent et il faut recommencer. Surtout quand la population est pauvre, surtout quand ce sont des projets justement de femmes, c'est-à-dire avec peu de possibilités de surplus de temps, de surplus d'énergie pour faire des projets, et ces projets sont tellement importants, il faut planifier à long terme. Il faut planifier dans des termes de 5, 10, 15 ans. Or, c'est nous qui venons et nous qui partons. Et celles qui restent, ce sont les fermières et ce sont dans leur groupe d'entraide. Ce sont elles, enfin, en effet, les experts de leur développement.
Est-ce que vous avez la sensation que s'il y avait aussi plus de postes créés pour des femmes dans les organisations non gouvernementales ou toutes sortes d'organisations qui travaillent en coopération avec les habitants du tiers-monde, eh bien les choses évolueraient plus fortement? Parce que bon, on a vu que pour beaucoup d'organisations, l'année passée, c'était l'année des femmes dans le développement. Hein. On a reconnu tout à coup que les femmes étaient les piliers du développement. Est-ce que c'est un peu par mode ou bien est-ce que c'est parce que vraiment on reconnaît qu'elles ont un rôle essentiel dans la construction et ça se marque dans les types de projets de développement qu'ils soutiennent?
Et il y a un point qui m'a beaucoup frappée au Kenya et j'ai entendu que c'était très semblable pour d'autres pays de l'Afrique de l'Est aussi, que les gouvernements de ces pays ont réalisé depuis longtemps l'importance des femmes pour le développement de ces pays. Alors, avec la décennie des femmes, ils ont justement assisté une multitude de projets. Mieux, moins bien, avec plus ou moins de réussite, etc. Mais l'idée de base que les femmes sont un pilier de développement, comme vous dites, elle est tout à fait là. Il me semble qu'il y a là un problème de développement en Suisse, plus que dans d'autres pays, à reconnaître ce rôle primordial que des femmes peuvent, ne jouent pas toujours, mais peuvent jouer dans le développement. Et dans le cas du Kenya, c'est tout à fait ça.
Et donc, elles ne sont pas simplement des... là, parce que c'est de toute façon leur tâche habituelle, mais petit à petit, on va leur reconnaître qu'elles peuvent prendre des décisions comme tous les exemples que vous nous avez montrés dans ces groupes d'entraide.
Espérons-le.
En tout cas, je vous remercie mille fois, Corinne Vaquer, de nous avoir fait partager cette grande expérience de 3 ans de vie au Kenya. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer pour raconter d'autres expériences, parce que votre séjour à la DAC, ça m'intéresse aussi beaucoup et je suis sûre que ça intéressera aussi nos auditrices. Alors, à une prochaine fois. Et on redonne une dernière petite parole de musique dans laquelle on danse dans le studio. Je remercie encore Corinne Vaquer et voilà pour aujourd'hui Remue Ménage c'est fini. La semaine prochaine, eh bien, nous recevrons Vivre au quai et le collectif d'associations des habitants d'Epaki, puisque le 1er avril, et oui, ce n'est pas un gag, au contraire, il ne faut pas perdre la farce, comme dit l'association Vivre au quai. Le 1er avril, on votera pour savoir ce que l'on veut faire de ce palais Wilson. Veut-on en faire un hôtel de luxe ou un endroit qui servira aux Genevois et aux habitants d'Epaki? Alors la semaine prochaine, le palais Wilson dans la ville, pour nous ou pour les friqués. Okay.